RFI, grand reportage,
Marie-Pierre Olfand.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, un pays où plus de 3500 migrants s'entassent dans des camps surpeuplés à la frontière avec la Croatie, des centaines dans des squats insalubres à Sarajevo et bien d'autres encore dans le reste du pays. Depuis plus d'un an, la Bosnie-Herzégovine fait face à un afflux massif de migrants auxquels les autorités peinent à faire face. Pour ces candidats à l'exil bloqués à la lisière de l'Union européenne, l'espoir de passer se fait de plus en plus ténu. Entre violence et désespoir, le quotidien des migrants oubliés en Bosnie-Herzégovine. C'est un grand reportage de Jean-Arnaud Derrins et Simon Rico, à la réalisation Eva Piedel.
La nuit est tombée sur Izacic. Malgré la neige, le balai des voitures et des camions se poursuit dans l'unique rue du village, à la pointe nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. À la sortie de la bourgade, il y a un petit poste frontière qui mène vers la Croatie. Cinq jeunes hommes, originaires d'Algérie et du Maroc, sont attablés sous la véranda du café Le Vieux Bay, emmitouflés dans leur manteau, un petit sac à dos à leurs pieds. Mohad devrait bientôt les rejoindre pour tenter de passer discrètement de l'autre côté des collines, là où commence l'Union européenne. Le jeune Algérois est fin prêt.
Alors moi, je vais partir maintenant. Je peux pas rester ici, moi. Je vais avec deux mes amis. On va partir à Izacic, on va rester dans une petite maison, un petit café. Tu vois, on va connecter, charger le téléphone. Et après, on va jusqu'à la nuit, 3 heures de nuit, on va partir. On marche un peu 20 km. Et après, on attend le bus. Et pour les squats, ils sont devant le bus. Alors on va les cacher, on va cacher un petit peu, on va regarder comme ça. S'ils sont pas là, on va sortir et on va gagner, Inch'Allah, et on va partir.
Avant de rejoindre ses amis à Izacic, Mohad a passé quelques jours dans le camp de Bira. Situé en périphérie de la ville de Bihać, le chef-lieu du canton d'Unasana, là où se concentrent les réfugiés qui veulent passer en Croatie, ce camp accueillait plus de 2200 personnes à la fin du mois de janvier. Dans les immenses hangars de cette ancienne usine de réfrigérateurs, des tentes financées par le Croissant Rouge de Turquie ont été montées à la hâte à côté des containers prévus par l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, qui gère le camp. La capacité initiale de 1500 places, prévue lors de l'ouverture cet automne, a en effet été bien vite dépassée. Mita Tsilkovski en est l'administrateur.
Le jour de l'ouverture, exactement le 26 octobre dernier, nous avons accueilli 120 personnes. Puis, chaque jour, le nombre n'a fait qu'augmenter. La raison principale pour laquelle on a ouvert ce camp, c'est à cause de la présence massive de migrants dans cette zone. La plupart vivaient dehors, dans des tentes. Comme dans toute société, communauté humaine, nous sommes confrontés à des problèmes, surtout qu'ici, il y a de nombreuses nationalités. Nous faisons notre maximum pour que les gens se comprennent. Il y a aussi un accompagnement psychosocial, tout ça, pour que la tension retombe.
Bira s'est rapidement organisée comme une ville dans la ville. Des volontaires y donnent des cours de langue, des barbiers proposent leurs services. Il y a même une petite mosquée au milieu des tentes dont les Corans et les tapis de prière ont été offerts par la communauté islamique de Bihać, l'instance religieuse qui gère la communauté de fidèles musulmans très majoritaire dans cette région frontalière de Bosnie-Herzégovine.
En fait, cela a commencé début novembre, quand on a réalisé qu'ils utilisaient un petit espace intime pour prier. Nous avons pris conscience de la nécessité d'organiser cela, qu'il fallait une mosquée. On a donc fourni une tente où ils peuvent tenir leurs 5 prières quotidiennes. Une fois par semaine, il y a un imam local qui vient officier ici.
Have the prayer for them here in the...
Parmi les résidents du camp, la moitié sont des Pakistanais, un quart des Afghans, 8% des Iraniens. mais on trouve aussi des Irakiens, des Bangladais et même quelques Kirghizes. Les hommes seuls sont en grande majorité, mais les familles, les femmes et les mineurs sont installés dans une zone à l'écart, séparée du reste du camp par de hautes palissades. Pour l'administration, la priorité, c'est d'éviter les violences exacerbées par la promiscuité et le désespoir que provoquent les refoulements systématiques à la frontière croate, mais aussi l'alcool et les drogues, notamment les opiacés que les pharmacies locales vendent sans grande réserve. Pour tenter de maintenir la paix et pallier le manque d'effectifs chronique, l'administrateur Mitat Silkovski compte sur l'implication des résidents du camp. Des volontaires aident aux tâches quotidiennes et un parlement a même été mis en place.
Cette instance représentative rassemble 12 personnes, principalement des Pakistanais et des Afghans, parce qu'ils sont les deux nationalités les plus nombreuses ici. Mais il y a aussi des membres d'Iran, d'Irak et d'autres pays. Lors de nos réunions, on discute de ce qu'il faudrait faire pour résoudre leurs problèmes. Ils nous font un compte-rendu de la situation, nous disent quelles améliorations nous pourrions apporter. Ils nous proposent aussi des volontaires pour aider au bon fonctionnement du camp. Pour nous, c'est à la fois utile et agréable.
Malgré ces précautions, des échauffourées éclatent toutes les nuits ou presque dans les allées sombres du camp de Bira. Le 1er février, une immense bagarre rangée a éclaté, faisant des dizaines de blessés et de gros dégâts matériels, tant et si bien que la police locale a dû intervenir. Plus de 50 personnes ont été interpellées, dont une grosse dizaine ont été placées en détention provisoire. Comme le reconnaît Stéphane Moissin, le chef de la mission de Médecins sans frontières dans les Balkans, la gestion d'un camp de la taille de Bira est une affaire délicate.
Les camps sont difficilement gérables quand tu as 2000 personnes dans des camps, des jeunes hommes qui sont en état désespéré, qui n'ont pas de capacité financière. Il y a souvent des bagarres. D'après les données de nos patients, on voit que ceux qui ont une capacité financière complètement dérisoire sont là depuis des mois et qu'ils ont peu de chances de passer.
Jamila a fui l'Iran avec son frère après l'assassinat de leur père, un notable de la minorité arabe. Parlant un excellent anglais, c'est la seule femme assiégée au sein du parlement du camp de Bira et pourtant c'est à peine si elle ose sortir de son petit préfabriqué de peur de subir une agression. Elle s'agace des mauvaises conditions dans lesquelles les migrants sont accueillis et de l'hypocrisie de l'Organisation internationale des migrations qui en assure la gestion.
Some of the staff here, they don't like us.
Il y a une partie du staff ici qui ne nous aime pas. Ils n'aiment pas les réfugiés. Vous savez, ce n'est pas la Bosnie qui paie pour nous. Ce sont les Nations Unies. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Hier, il y a quelqu'un d'important qui est venu. Donc, ils ont tout bien nettoyé. Ils nous ont donné de la meilleure nourriture. D'habitude, on ne peut pas aller aux toilettes tellement c'est sale. Mais hier, waouh, ça sentait bon. Tout était impeccable.
You could see cleanliness everywhere.
Jamila et son frère ont pris le vol direct ouvert en 2017 entre Téhéran et Belgrade, alors que la Serbie ne demande plus de visa aux ressortissants iraniens. Quand ils ont atterri, ils avaient en poche 7000 euros réunis par leur sœur aînée installée en Allemagne. Un pécule qui leur semblait suffisant pour la rejoindre, mais aujourd'hui ils n'ont plus rien. Ils ont payé au prix fort le passage de la Serbie vers la Bosnie-Herzégovine, puis celui plus cher encore pour entrer en Croatie. Ils ont finalement été arrêtés alors qu'ils s'approchaient de la frontière avec la Slovénie.
Je ne sais pas si vous savez, mais quand on se fait arrêter à Rijeka ou près de la frontière slovène, on se fait renvoyer jusqu'ici. Enfin, pas exactement ici, bien sûr, mais dans les montagnes, au milieu de nulle part. C'est là qu'on nous a abandonnés au beau milieu de la nuit. On a réclamé nos affaires qu'ils avaient mises dans un carton. J'ai demandé nos téléphones et nos batteries d'appoint parce que ce sont les choses les plus importantes pour nous sur la route. Les policiers se sont alors mis en colère. Ils nous ont hurlé « Dégagez !» Mon frère m'a dit de me taire et de partir. Il avait peur que je me fasse frapper.
Avant d'être pris en charge par l'OIM, Djamila et son frère ont été contraints par la police croate à traverser la rivière Glina qui fait frontière entre la Croatie et la Bosnie alors que la température extérieure descendait largement sous les 0 degrés Celsius. Depuis, la jeune femme n'a plus qu'un filet de voix éraillé. Elle n'est pas la seule à avoir subi les violences de la police. Fazal Amin, un jeune Afghan que ses amis surnomment Armani à cause de son look, a lui aussi été frappé et même emprisonné à plusieurs reprises sur la route des Balkans. Après avoir été expulsé une première fois d'Allemagne début 2016, il a dû de nouveau quitter Kaboul sous la menace des talibans.
Mon cousin m'a dit de repartir en Europe. Je suis resté en Grèce 15, 16 jours. Ensuite, j'ai passé 5 jours dans les camps en Macédoine. Après, je suis arrivé en Serbie, mais je me faisais arrêter à chaque fois que je passais la frontière. Et j'ai aussi passé un mois en prison. Ensuite, j'ai été 2 mois dans un camp officiel à Obrenovac, où j'ai été traducteur. Ensuite, je suis arrivé en Bosnie-Herzégovine. J'ai déjà essayé de passer la frontière 4 ou 5 fois. La police m'a frappé et j'ai même failli perdre un doigt qui avait gelé.
Hormis Bira, l'OIM gère 2 autres camps autour de la ville de Bihać, Sedra et Borici. Plus petits, ils sont réservés aux populations vulnérables, familles, femmes et mineurs isolés. Ancien orphelinat abandonné depuis les années de guerre, Borici était jusqu'à l'automne un immense squat où s'entassaient plus d'un millier de personnes dans des conditions indécentes. L'UE a financé les travaux de rénovation du bâtiment, toujours en cours, et tient à le faire savoir. Les murs, dont la peinture est encore fraîche, sont couverts d'autocollants « provided by European Union », fournis par l'Union européenne. Si les conditions de séjour s'améliorent dans ce centre, les résidents ne renoncent pas à leur objectif pour suivre leur route vers l'ouest, comme le confie sa directrice, Amira Hadjimermedovic.
Il y avait un couple qui était hébergé dans ce camp d'accueil temporaire. Ils n'avaient d'argent que pour payer le passage de la femme, enceinte de 5 mois. Elle est partie seule il y a quelques jours et depuis, son mari est sans nouvelles. On va essayer de savoir ce qui lui est arrivé. Il nous jure qu'elle va revenir. Mais si elle n'est pas là aujourd'hui ou demain, il devra être expulsé du camp parce qu'ici, nous n'accueillons que des familles, surtout celles avec des enfants.
Et pourtant, ces dernières semaines, de plus en plus de migrants quittent la Bosnie-Herzégovine pour revenir en Serbie, où les camps gérés par le gouvernement offrent de meilleures conditions d'accueil. Il s'agit pour eux de passer les mois d'hiver avant de reprendre la route au printemps, mais la police laisse entrer sans difficulté ces migrants qui avancent à contresens. La Serbie a en effet touché près de 100 millions d'euros d'aide européenne depuis 2016 et elle a besoin de remplir ses camps pour justifier le maintien de ses dotations. La gestion des flux migratoires délégués par l'Union européenne aux pays des Balkans est devenue une manne pour ces États, comme l'explique Stéphane Moissin de Médecins sans frontières.
On voit des groupes de 5 à 15 personnes qui effectivement reviennent à pied de Bosnie. En leur posant la question du pourquoi ils reviennent en Serbie, tandis que la route semble être dans le sens inverse, leurs réponses disent que les camps en Serbie ont plus d'espace, sont plus sûrs. Après, dans leurs témoignages, ils disent aussi qu'ils attendent le printemps pour recommencer à voyager. C'est souvent des gens qui sont en déplacement depuis plusieurs années aussi, donc le voyage est vraiment désespéré.
À 1 heure de route au nord de Bihać, la bourgade de Velika Kladuša est l'autre point de fixation des réfugiés à la frontière bosno-croate. Là aussi, l'OIM gère un camp situé tout près d'une des mosquées. Dans la région autrefois frontière entre l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie, la population est très majoritairement musulmane. Mohamed est arrivé ici de Tunisie il y a déjà 3 mois. Pour occuper ses journées avant de retenter sa chance quand les conditions seront meilleures, il travaille bénévolement pour SOS Team Kladuša, une ONG locale qui sert des repas chauds aux réfugiés.
Here it's good, sometimes it's like not good, but I understand like about the people.
Ici, parfois ça va, d'autres fois ça ne va pas. Je comprends les gens, on se sent tous très stressés, on ne pense qu'à une chose, pouvoir franchir la frontière. On veut quitter cet endroit parce qu'il n'y a rien à faire ici. En ce moment, c'est impossible de dormir dehors. Il fait très froid, tout est gelé. Mais si vous allez dans le camp Miral, vous verrez que les conditions sont vraiment mauvaises.
SOS Team Kladoucha a commencé à aider les réfugiés il y a un an. C'était au moment où l'afflux a brusquement augmenté à cause du verrouillage des frontières de l'UE autour de la Serbie. En quelques semaines, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées coincées dans cette zone vallonnée à l'extrême nord-ouest de la Bosnie. Pour pallier la lenteur du millefeuille administratif, un petit réseau de solidarité s'est rapidement mis en place. Ici, le souvenir de la guerre des années 1990 et des plus de 2 millions de déplacés est encore très présent, même si une partie de la population locale s'inquiète de ces migrants livrés à eux-mêmes. Asim Latic est le fondateur de SOS Team Kladoucha.
Ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur, parce que nous sommes tous des vétérans de la guerre patriotique. On a tous connu la même chose. Moi, une fois, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille pendant 5 jours. C'est pour cela qu'on a décidé d'aider les gens, et pendant 2 mois et demi, j'ai tout financé de ma poche. Nous, les 4 qui travaillons ici, on sait ce que c'est de se retrouver sans rien, sans nourriture.
Cet automne, Asim Latic a bien failli devoir arrêter de distribuer des repas aux réfugiés. Les autorités locales, hostiles à son action de solidarité, avaient fait bloquer les comptes de son association. C'est finalement grâce au soutien d'une ONG néerlandaise que lui et les autres vétérans ont pu continuer. Dans la capitale Sarajevo, l'autre point critique pour l'accueil des réfugiés, la mairie fait mine d'ignorer la crise qui se joue dans ses rues. C'est ce que regrette Rose, qui chapeaute l'équipe de volontaires No Borders d'Aide Brigade.
Dans la rue, les réfugiés sont livrés à eux-mêmes, on les ignore, on ne leur offre aucune aide. Pour le moment, on nous a laissés faire seuls. Nous n'avons pas reçu de soutien, mais pas de menaces non plus. La police nous laisse mener nos actions. Parfois seulement, on nous demande de quitter certains endroits où nous organisons des distributions de nourriture. Il nous suffit alors de nous déplacer. Jamais, on ne nous a totalement empêchés de travailler.
Sarajevo, c'est le lieu où se replient ceux qui ont peur de se faire agresser dans les camps ou qui ne veulent pas se faire enregistrer, principalement les Maghrébins, moins nombreux et donc plus vulnérables en cas de bagarre collective. On trouve une 20aine de squats, le plus grand se trouve au cœur de la vieille ville, à quelques pas de la fontaine du Sébil et de la célèbre place aux pigeons toujours prisée par les touristes. Une petite équipe de Médecins Sans Frontières y vient toutes les semaines pour assurer des visites médicales et assainir les lieux, le meilleur moyen de prévenir la propagation des maladies. Stéphane Moissin rappelle la nécessité de laisser agir les ONG, dont le travail est essentiel pour éviter une crise humanitaire.
Le ras-le-bol de la migration se caractérise par une étape où les autorités stigmatisent les groupes de société civile, les ONG basées sur du volontarisme, pour arrêter les services solidaires aux migrants, parce qu'ils considèrent ces services comme un effet attractif. Moi, je tournerais la chose différemment parce que l'aspect attractif, c'est pas les gens qui apportent des services, c'est la proximité des frontières. En faisant ça, on augmente les vulnérabilités, on n'arrête pas la migration. Les migrants sont désespérés. S'il y a du danger ou de la misère, ils n'arrêteront pas le voyage.
Comme chaque hiver, les passages de frontières se sont réduits en même temps que les températures chutaient. Les migrants préfèrent en faire une longue halte dans les camps officiels disséminés tout le long de la route des Balkans. Mais en Bosnie-Herzégovine, migrants, autorités et ONG ont tous la même préoccupation en tête. Que va-t-il se passer au printemps? Avec les camps qui débordent déjà et l'afflux massif qui se profile, la situation risque de devenir ingérable. Entre violence et désespoir, le quotidien des migrants oubliés en Bosnie-Herzégovine, un grand reportage signé Jean-Arnaud Derins et Simon Rico, réalisé par Eva Piedel.